Eh bien, bonjour, bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse, joyeux Noël, et que le Seigneur soit avec vos cœurs, et que nous puissions vivre encore un temps de paix, pour pouvoir prêcher l'Évangile, amen. C'est ça l'important. Je vais faire une lecture dans Matthieu, chapitre 18, versets 18-19. Matthieu 18-19. Alors nous avons chanté, nous avons loué le Seigneur, et maintenant vous nous rejoignez sur Internet, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, quelques membres de notre communauté ne sont pas là, alors nous les saluons bien, ils sont dans ma famille, Dieu les bénisse aussi. Matthieu 18-19, c'est Jésus qui parle. Et qui dit, je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Ça, c'est un verset que j'ai entendu le soir de ma conversion. C'est notre frère Raphaël Duval qui prêchait, et il a pris ce verset, il a pris aussi « Ce peuple honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Parce qu'il suit des préceptes humains plutôt que de suivre les commandements de Dieu. Est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi Jésus dit que si deux ou trois sont assemblés, se mettent d'accord, en son nom, il est au milieu d'eux ? Moi, je me suis posé souvent la question, et je l'ai posé au Seigneur, et puis j'ai eu des bribes de réponses petit à petit, et là, maintenant, alors que le Seigneur est en train de rétablir toutes choses, les choses deviennent de plus en plus précises. Et les enfants de Dieu sont des humains, c'est vrai, oui, mais pas que. Nous sommes aussi autre chose. Nous sommes des esprits envoyés par Dieu pour vivre sur cette terre quelque chose de particulier. Les gens de ce monde, ils ont une petite phrase, ils disent souvent « l'union fait la force ». Ils n'ont pas tort, l'union fait la force. Et pourquoi l'union fait-elle la force ? Eh ben, et puis quelle force fait-elle aussi ? Quelle force fait-elle ? Bien sûr, on peut voir ça sur le plan physique, on peut voir ça sur le plan matériel, mais dans le monde spirituel, il y a aussi une réalité de cette chose-là, de l'union qui fait la force. Quand on est unis, ensemble, accordés sur une chose en particulier, on forme dans le monde invisible une masse, une unité de masse, une masse de puissance. Les chrétiens n'en ont pas vraiment conscience. La plupart du temps, ils n'ont pas une vie spirituelle assez subtile pour s'en rendre compte. Les chrétiens dénominationnels s'attendent à un réveil en ce moment, et certains pensent qu'il va y avoir des milliers d'inconvertis qui vont venir au portail, des milliers d'inconvertis qui vont venir à l'église, se convertir et tout. Alors, ça, c'est vrai qu'on voit, mais il y a déjà eu des grands réveils comme ça, et on voit aussi des réveils. On voit par exemple, dernièrement, je voyais à la télévision, au journal de 13h, ils parlaient d'une église en Algérie où il y a 80 personnes qui sont baptisées chaque mois. Gloire à Dieu. Et il y a des choses comme ça qui se produisent, c'est vrai. Mais ce n'est pas de cela dont Jésus veut parler réellement. Il nous parle du réveil des vierges folles et des vierges sages. C'est cela surtout qui va arriver à la fin. Et ce réveil est spirituel, il concerne l'Église. C'est l'union réelle de ce que nous sommes ici-bas avec ce que nous sommes en Christ. C'est ça le réveil, le vrai réveil. Le réveil que nous attendons. Nous sommes l'Église, et l'Église est une entité réelle dans le monde invisible. Il y a un mot français qui est apparu pour la première fois en 1857 sous la plume d'un de nos plus grands auteurs, Victor Hugo. Bon, je préfère Bernard Werber, mais chacun ses goûts. C'est dans son livre La légende des siècles. Il a inventé un mot à partir d'un mot latin. Ce mot latin, c'est egregus, qui signifie choisi ou de choix ou d'élite. Et vraiment plus précisément, hors du troupeau. Ce mot latin, il vient d'un mot grec qui se dit grex. Et il en a fait un mot qui est utilisé presque que par les occultes, les satanistes et les gens comme ça. C'est bizarre, c'est bizarre. Le mot français, c'est égrégore, qui signifie faire lever, éveiller, réveiller, et littéralement veilleur. Ça vous dit rien, veilleur, le veilleur? Hein, c'était le titre de mon premier livre. Le mot se trouve aussi partout dans le livre d'Enoch. Les veilleurs sont des anges, des esprits. Or, on sait que les anges travaillent ensemble pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et voilà, mais puis voilà, puis on s'arrête là, on ne va pas chercher plus loin. Maintenant, nous sommes aussi des anges nous-mêmes, puisque nous sommes des envoyés de Dieu sur terre. Nous sommes des esprits envoyés par Dieu sur terre. En cela, nous sommes des anges. Étymologiquement, je le répète encore pour ceux qui ne connaissent pas, le mot ange, envoyé ou apôtre, c'est le même mot. Notre problème, c'est que nous sommes seuls. Hein, quand je regarde chacun d'entre vous, on est seul, enfermé dans une boîte de chair. Et vous pouvez être au milieu d'une foule et vous êtes quand même seul. Vous êtes quand même seul. Ce n'est que dans la prière commune que nous atteignons une unité élevée et que, spirituellement, nous formons une entité efficace. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il faut se mettre d'accord au moins deux ou trois. Les spirites, eux, ils l'ont compris. Ils sont plus spirituels. Du mauvais côté, mais ils sont plus spirituels que la plupart des chrétiens qui, eux, n'ont pas compris cette chose-là. Ils n'ont pas compris. Je m'en suis rendu compte très rapidement quand je me suis converti. Je faisais partie d'une église à Lausanne où il y avait 150 membres qui venaient louer le Seigneur le dimanche matin et où on était 15 le jeudi soir à la réunion de prière. Ah, c'est quand même significatif. Les spirites, les diaboliques, les malfaisants forment des groupes de personnes qui ont une volonté unifiée, un objectif commun, un même but. Ils se réunissent à des moments précis et ça crée un égrégore, ou si vous voulez, un égrégus en latin. Une entité spirituelle qui a de la puissance pour accomplir le dessein maléfique de leur père, le diable. Il y a des égrégores, c'est le mot français, des égrégores familiaux. Vous avez des familles royales. Vous avez des égrégores d'industriels, de politiques, de religieux, même de sport, de musique aussi. Toutes ces familles influencent le monde, dans l'art par exemple aussi. Comment ils font? En utilisant les gens qui sont affaiblis parce qu'ils boivent, parce qu'ils fument, parce qu'ils se droguent, parce qu'ils jouent, parce qu'ils se laissent passivement, ils se laissent passivement manipuler par les médias, pour pas dire ils se laissent massivement abrutir par les médias, ces égrégores, ces entités spirituelles entrent en contact avec ces gens qui sont affaiblis spirituellement par un esprit borné, sectaire, par leur insouciance, ils sont affaiblis par leur irrévérence envers Dieu. Tout ça crée des trous dans leur spiritualité par lesquels ces entités peuvent entrer en contact avec eux. Toutes ces choses créées par ces unions de diaboliques, ces égrégores, créent des entrées dans les gens qui sont affaiblis dans leur conscience, et c'est ainsi que la masse humaine est manipulée. On peut lire dans Éphésiens 2:2, si vous voulez bien.
Éphésiens 2, 2,
on peut lire déjà un peu avant. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui actuellement est à l'œuvre parmi les hommes rebelles. La puissance de l'air. La puissance de l'air. Le diable a une organisation terrestre unie avec une organisation dans les lieux célestes, c'est ce que la Bible nous dit. Et en cette période spéciale de la vie sur Terre, nous savons que le prince de l'air se sert des ondes, c'est comme ça que le monde les appelle, et ils influencent l'humeur des gens, ils influencent leurs attitudes, leurs pensées, leurs comportements, et l'esprit humain, qui n'est pas protégé, syntonise naturellement ses longueurs d'onde. Quand je dis que ça syntonise, ça signifie que l'esprit des gens du monde et des chrétiens non protégés s'accordent avec ces ondes émises, se règlent dessus, sont accordés sur la même longueur d'onde, comme on dit, s'associent, se combinent, se réunissent par une forme, par une synthèse à ce qui se balade dans l'air. Et voilà pourquoi on dit d'une chose, d'une mode ou d'une forme de pensée ou de comportement, ah, c'est dans l'air. Vous avez déjà entendu ? Les gens ne sont pas fous, se rendent bien compte, mais voilà, ça s'arrête là. Le diable est le prince de l'air, nous dit Paul. Il manipule le monde au moyen d'ondes, de fréquences émises par lui-même, par ses démons, par les morts, mais aussi par des satanistes de tout poil. Paul dit plus loin, dans cette même épître, aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 12, que ce sont des esprits organisés, hiérarchisés, dans les lieux célestes, dans l'air, qui influencent et même qui dirigent les aspects de ce monde, et ils le font d'une façon soigneusement planifiée. C'est spirituel. Les gens du petit peuple ont une énergie et ils la livrent entre les mains des puissances dont ils ignorent même l'existence. Les chrétiens tombent dans cette manipulation spirituelle, ils ne se rendent pas compte de leur manque. Ils ne prient plus en commun, acte 2, 42, ils persévéraient dans la prière, ils ne vivent plus avec un but commun, acte 4, 32, ils étaient un seul cœur, une seule âme, ils ne prennent plus la Sainte Cène chaque jour, acte 2, 46, ils ont mis un point virgule pour bien séparer, pour nous faire croire qu'on n'est pas obligé de la prendre tous les jours. Ils ne mangent plus ensemble, comme ça se faisait dans l'Église primitive, ils ne sont plus ensemble, ils n'ont plus un seul cœur, une seule âme, selon Actes 4, 32, parce qu'ils ne se connaissent pas, ou très mal, parce qu'ils ne se fréquentent presque pas, et quand ils se fréquentent, c'est juste pour s'asseoir en randonnant dans les églises, et ils trouvent moyen même, là, de trouver, ils arrivent même à se chicaner. Bref, les chrétiens d'aujourd'hui sont affaiblis par tout cela, par tous ces manques. Et ça laisse des possibilités à l'ennemi d'entrer, ou du moins d'influencer leur esprit. Ils sont pleins de trous, spirituellement parlant. Vous savez, on parle de la couche d'ozone qui est trouée. Ben, c'est un petit peu comme ça. On a une couche d'ozone. On a une protection spirituelle, nous autres enfants de Dieu, mais elle est pleine de trous, et par ces trous peuvent entrer toutes ces influences d'égrégores fabriquées par toute la hiérarchie des satanistes et des malfaisants de ce monde, et pas seulement, mais aussi des morts et de mauvais esprits, des démons, etc., etc. Les chrétiens se livrent à ça sans même s'en rendre compte, simplement parce qu'ils ont des manques, ils ont des trous dans leur couche de protection, parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. C'est par là que les égrégores entrent, ces entités formées de la volonté d'humains malfaisants qui veulent conquérir le monde. Comme je vous disais, il n'y a pas que les égrégores vivants, des égrégores des vivants, mais il y a aussi les égrégores des morts. On va lire Luc 16, 26. Luc 16, 26. Qu'est-ce que Luc 16, 26 nous dit? C'est l'histoire, vous savez, de Lazare et du mauvais et du riche, de l'homme riche. Alors tous les deux meurent et tous les deux se retrouvent dans un endroit spécifique. Il y en a un qui se trouve dans un endroit de souffrance, c'est le mauvais riche, et puis l'autre qui se retrouve dans un endroit de félicité, dans Saint Abraham. Et puis celui qui a été méchant sur la terre, c'est pas parce qu'il était riche, c'est parce qu'il était méchant. Il y a des riches très gentils. Mais parce que lui, il était méchant, alors il dit « Envoie quelqu'un dire à mes frères que... » hein? Et le Seigneur dit « Il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent le faire. » Il est en train de dire que on peut pas, les morts ne peuvent pas entrer en contact avec nous, c'est impossible. Et Jésus dit la vérité, n'est-ce pas qu'il dit la vérité? Oui, il dit la vérité. À ce moment-là, c'était ça la vérité. Mais maintenant, ça n'est plus vrai. Et vous ne me croyez pas quand je dis ça. Vous, ici de la communauté, je sais que vous me croyez, et plusieurs aussi sur Internet. Mais beaucoup de chrétiens ne me croient pas. Déjà, premièrement, ils ne savent pas, et quand je leur dis, ils sont tellement étonnés qu'ils préfèrent penser à autre chose. C'était vrai, mes frères et sœurs, ce que Jésus dit là, que les morts ne peuvent pas contacter les vivants, jusqu'à ce que le quatrième sceau de l'Apocalypse soit ouvert. Et le quatrième sceau de l'Apocalypse s'est ouvert. Les morts ne pouvaient pas contacter les vivants, mais depuis que le quatrième sceau est ouvert, le séjour des morts a été ouvert. On va lire Apocalypse 6. Apocalypse 6. Verset 7. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le quatrième être vivant dire « Viens ». Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent qui ? La mort et le séjour des morts. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, la famine, la peste, les bêtes sauvages de la terre. Les chrétiens croient que les morts, c'est fini, ils ne peuvent plus... Écoutez, ils ne connaissent pas les Écritures. Et ça fait des années que je leur enseigne, et même ceux que j'ai enseignés, ils ont oublié ces choses la plupart. Ils ont oublié. Le quatrième sceau annonce ce qui doit arriver avant que le quatrième être vivant de Dieu cesse de s'occuper de la terre. Quand le premier sceau s'ouvre, il y a un être vivant. Quand le deuxième sceau s'ouvre, il y a un être vivant. Quand le troisième sceau s'ouvre, il y a un être vivant. Quand le quatrième sceau s'ouvre, il y a un être vivant. Mais après, vous voyez, dans le cinquième, le sixième et le septième, il n'y a plus d'être vivant. Ces êtres vivants sont des êtres vivants de Dieu qui sont devant le trône et qui s'occupent de gérer le monde au travers de la puissance de l'Esprit qui est dans l'Église. Dans les Églises. Mais à partir du moment où l'épouse est enlevée, il n'y a plus ces êtres vivants. La terre est livrée au diable complètement. C'est l'antichrist, c'est le chaos, c'est la troisième guerre mondiale et toutes ces choses. Mais ils ne veulent pas le croire. Ils ne pensent pas qu'on est sous le quatrième sceau. Ils disent tous « Jésus revient ». Mais si Jésus revient, c'est bien qu'on est sous le quatrième sceau. Parce que après, quand Jésus sera revenu, il n'y aura plus d'êtres vivants. Vous me suivez ? En ce moment, c'est l'être vivant à tête d'aigle qui règne sur la vraie Église. Le quatrième être vivant, c'est le dernier des êtres vivants. Vous pouvez trouver ça dans l'Apocalypse. Ce sont des êtres vivants. Il y en a un qui a une tête d'homme, un qui a une tête de bœuf, un qui a une tête d'aigle, et puis l'autre, je ne me rappelle plus. Enfin, peu importe. Celui qui nous intéresse, c'est le dernier, c'est-à-dire celui qui règne en ce moment, mais qui va bientôt s'en aller quand nous allons nous en aller. Et pour le moment, nous sommes encore là, il y a cet être vivant, mais il n'y a pas que cet être vivant bénéfique qui vient de Dieu, il y a aussi un cheval qui est monté par la mort et qui est suivi par le séjour des morts, et ça c'est maintenant, juste avant le retour de Jésus. L'esprit de prophétie, cet être vivant, c'est l'esprit de prophétie qui rétablit toutes choses dans la véritable Église de Jésus-Christ, c'est pourquoi on voit en même temps une armée de faux prophètes comme jamais auparavant. C'est ça, c'est l'imitation de ce que Dieu fait. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est la mort qui cherche, qui chevauche et qui est suivie par le séjour des morts, qui est accompagnée par le séjour des morts sur la terre. Et ils ont un pouvoir, celui de tuer. Alors, je ne vais pas me faire des copains aujourd'hui, mais je vais quand même le dire. Savez-vous que, en 2017, que nous avons terminé là, il y a déjà eu 55 700 000 avortements dans le monde, dont 25 500 000 ont été pratiqués d'une façon non sécurisée. Et ces avortements non sécurisés ont entraîné la mort de 47 000 femmes. En 2016, 39,5% des femmes avaient avorté. Ça veut dire presque 40%, presque la moitié, presque une femme sur deux. Je sais que je ne vais pas me faire des copains, tant pis. Osez écouter ces chiffres. 36 millions de personnes sont mortes du sida depuis 1981. 36 millions! En France, on compte 385 000 nouveaux cas de cancer chaque année. C'est la première cause de mortalité prématurée en France, le cancer. En France, depuis 1960, 350 000 personnes sont mortes suite à des accidents de la route. Depuis 1945, 500 000 personnes sont mortes à cause des accidents de la route. En France, je ne dis pas dans le monde, un demi-million depuis 1945. Depuis 1917, 231 millions de personnes sont mortes à cause de la guerre. 231 millions de personnes. Hier soir, dans la communauté, on a regardé le film Dunkerque. Vous, les chrétiens bisounours qui ne voulez pas regarder les films, la télévision, achetez ce film Dunkerque. Regardez ce qui s'est passé. Regardez en face l'horreur de ce que fait la mort suivie du séjour des morts sur cette terre. Ouvrez vos yeux. Il y a 1519 personnes qui meurent chaque jour en France. La mort et le séjour des morts sont organisés en égrégore, c'est-à-dire en masse malfaisante dans les lieux célestes, dans l'air, et ils tuent. Mais pas seulement ces entités. Ces entités-là entrent en contact avec des millions de vivants. Savez-vous qu'il y a 6 millions de membres dans les centres de spiritisme? Savez-vous qu'il y a 20 millions de sympathisants du spiritisme, c'est-à-dire des gens qui soutiennent financièrement ces groupements? Ces centres de spiritisme sont très souvent reconnus d'utilité publique. Je vous rappelle que les spirites invoquent les morts, chose abominable devant Dieu, interdite. Ces centres sont souvent reconnus d'utilité publique, ils possèdent des crèches, peut-être la crèche où vous mettez votre cher petit bambin, pour aller gagner votre SMIC de merde qui vous permet juste de pouvoir prendre la voiture pour ramener votre gamin à la crèche, puis d'aller le rechercher le soir. Non, j'exagère un peu là. Mais franchement, ne mettez pas vos enfants dans n'importe quelle crèche, renseignez-vous. Ils possèdent des orphelinats, les spirites, ces organisations spirites. Il possède des orphelinats, des écoles professionnelles, des bibliothèques, des cliniques, des hôpitaux, des maisons de retraite. Vous êtes sans doute, sans le savoir, en contact avec des gens qui invoquent les morts et influencent votre famille. Vous ne savez pas. Chaque jour, il y a 6 000 personnes spirites dans le monde qui invoquent les morts. Ils ont des hôpitaux psychiatriques subventionnés par l'État en France. Et cela s'est répandu dans le monde depuis la France. Par un homme qui a commencé tout ça, qui est enterré au Père Lachaise à Paris, et qui se nommait Allan Kardec. Vous avez entendu parler? Les chrétiens, vous qui dites que vous luttez contre les forces démoniaques, qu'est-ce que vous connaissez d'Allan Kardec? Qu'est-ce que vous avez comme renseignement au sujet du monde spirit? Qu'est-ce que vous avez comme renseignement et comme connaissance au sujet de ce monde des ténèbres? Et vous prétendez des chasseurs de démons? Pardon, là je suis un peu en colère, mais c'est quand même terrible! Cette ignorance, ce manque! Ces gens sont en communion avec les morts qui ont été lâchés depuis que le quatrième sceau a été brisé, et ces gens vivent en union avec les morts en formant des égrégores, c'est-à-dire ces fameuses masses de puissance, d'autorité dans les lieux célestes contre lesquels nous avons à lutter, mais boum, on ne peut pas lutter si on ne connaît pas notre ennemi. Les égrégores sont des masses spirituelles invisibles, des égrégores qui influencent toutes les sphères de la société, et même les églises, et surtout les églises charismatiques. Mais regardez un peu ce qui se passe dans les églises charismatiques. Allez dans une église charismatique où les gens se roulent par terre, et puis ensuite vous allez dans une réunion d'hypnotistes. Vous allez voir, c'est la même chose. C'est la même pratique. Mais ne me dites pas que c'est un autre esprit. C'est le même sale esprit qui fait ça. Mais les chrétiens sont des bons moutons qui suivent, qui ne réfléchissent pas et qui suivent comme ça n'importe comment. Ils ne prient plus ensemble. Ils se chicanent comme une bande de grosses folles vierges. Et ils ne forment pas leur groupe entité spirituelle de résistance. Ils n'ont pas organisé. Les chrétiens ne sont pas organisés. C'est le club le plus désorganisé du monde. Après cela, pourquoi s'étonner de les voir, n'est-ce pas, rejeter les véritables serviteurs de Dieu? Il y a des années, j'ai publié sur notre site un livre écrit par un homme de Dieu du nom de A.A. Allen. Ce livre a pour titre « Le secret pour un ministère de puissance ». L'avez-vous lu? Cet homme de Dieu avait des réunions immenses. À chaque fois, des miracles extraordinaires se produisaient. Il ne pouvait pas aller prêcher dans les églises parce qu'elles étaient trop petites. Alors il avait un chapiteau de 20 000 places. Et il faisait des tournées avec ce chapiteau. Il organisait ses réunions comme cela, en accord avec les églises locales du coin, en collaboration avec les églises locales du coin. Et ces églises touchaient les dîmes des chrétiens qui venaient des réunions de Allen. C'était un contrat qu'ils avaient fait ensemble. C'était bien de la part d'Allen, il aurait pu garder tout pour lui. Mais les pasteurs, certains, pas tous, ont voulu que cela se passe autrement. Ils le voulaient chez eux, avec eux, pour toucher tout le pognon. Comme Allen refusa, ils l'ont empoisonné. Ils l'ont empoisonné. L'histoire est sordide, écoutez bien. Ils ont empoisonné du lait qu'il a bu avant de se rendre dans une réunion. Il était avec d'autres frères, il a dit, on va s'arrêter, je vais boire un verre de lait, ça va. Et ils ont empoisonné, le frère a dit, oh ce lait a un drôle de goût. Et quelqu'un a dit, oh il est sûrement déjà en train de tourner un peu. Ils ont fait quelques centaines de mètres, et le frère Alain a dit « Arrêtez-vous, je ne me sens pas bien ». C'est-à-dire qu'il avait envie de vomir sur la route, il s'est senti mal. Et comme par hasard, des passeurs sont sortis à l'endroit où il était, d'un buisson, avec des flics et avec des journalistes qui ont pris des photos. Les flics ont fait une contravention à Monsieur Allen, au frère Allen, disant qu'il conduisait en faculté affaiblie. Ils n'ont pas dit avec de l'alcool dans le sang, parce qu'il n'y avait pas d'alcotest à l'époque, mais en faculté affaiblie. Ça voulait dire qu'il avait pris quelques substances, n'est-ce pas? Bon, puis Alain, ça a été mieux, il a passé le volant à quelqu'un d'autre, ils sont allés faire la réunion, tout s'est bien passé. Quelques jours plus tard, quelques temps plus tard, Alain, dans un hôtel, avec ses frères, il y avait le frère Ken Roger, et deux autres membres de son équipe qui étaient avec lui, et tout à coup il dit, ben écoutez, avant de prendre le repas, je me repose un moment, je vais aller m'étendre dans ma chambre. Donc il est monté dans sa chambre, et puis au bout d'un moment, les frères se sont inquiétés parce qu'ils ne redescendaient plus. Donc ils sont allés voir, ils ont tapé à la porte, ils ne répondaient pas. Ils ont insisté, finalement ils ont fait monter les responsables de l'hôtel, ils ont ouvert la porte et ils ont trouvé Alain mort dans sa chambre. Un médecin légiste est venu immédiatement et a délivré un certificat de décès indiquant que la cause de la mort était une crise cardiaque. C'est un papier officiel. Mais les bons pasteurs ont fait courir le bruit que la chambre d'hôtel du frère A. Allen était jonchée de bouteilles d'alcool vide. Ils ont complètement discrédité le ministère de A. Allen à cause de l'argent des dîmes qu'ils ne pouvaient pas toucher parce que Allen ne voulait pas prêcher dans leurs petites églises. Ce que vous ne savez pas, c'est que Allen a prophétisé des choses qui se produisent et d'autres qui vont se produire très bientôt. Mais tout ça, c'est sur mon site, là. C'est sur mon site. Mais qui va voir ça? Je ne vais même pas vous dire où c'est sur mon site. Allez chercher. Ces pasteurs ont commis un péché grave et ont privé l'Église de ces messages prophétiques de Dieu qui avertissait l'Amérique au sujet de choix qu'elle allait faire et qui allait la plonger dans un chaos. Et nous sommes à la veille de cela. Mais ils n'ont pas seulement discrédité à Allen, ils ont aussi discrédité Joseph Smith, William Branham, T.L. Osborne, tous les ministères de puissance, tous les ministères magnifique, ils les ont tous discrédités. Tout cela parce qu'ils ont une puissance, ils forment par leur unité un égrégore malfaisant contre lequel les petits chrétiens des églises, bien innocents, ne peuvent rien parce qu'ils ne prient pas ensemble. Ils ne vivent pas ensemble. Ils n'ont pas de but commun. Ils ne se connaissent pas. Ils sont victimes, mais quand même un peu consentantes. Ils n'ont qu'à sortir de tout ça. D'ailleurs, la Bible dit « sortez du milieu d'eux ». Mais ils ne sortent pas. Ils continuent à se plaindre, mais ils ne sortent pas. Quand je vous dis qu'il faut avoir une vie de prière, à heure fixe, dans un endroit précis, quand je vous dis de prier avec des chrétiens avec lesquels vous êtes en accord, quand je vous donne des heures où les portes célestes s'ouvrent, tout ça vous trouvez sur Révélation Bible. Là, on vient de faire le solstice d'hiver. Est-ce que vous avez prié à ce moment-là, quand ces portes se sont ouvertes? Nous, en tout cas, la communauté, on prie. Et ceux qui prient avec nous m'écrivent aussi. Nous sommes avec vous, on prie. Quand je vous dis de vivre des projets en commun, c'est pas pour m'amuser et pour faire mon intéressant, c'est pas pour vous dire que j'ai une doctrine spéciale et que je veux me singulariser, c'est pas pour le plaisir de vous commander de faire ceci ou de faire cela, c'est parce que l'Église a cruellement besoin de gens qui créent dans le monde spirituel des forces de résistance contre les machinations diaboliques des malfaisants. Mes frères et sœurs, le réveil va être dur pour les vierges folles. Elles ne comprennent rien à la spiritualité. Elles ne comprennent rien au monde invisible qui les entoure, aux entités de toutes sortes qu'elles ignorent totalement. Elles ne savent même rien au sujet des anges de Dieu. Quand il y a un ange de Dieu qui se manifeste, ils disent « c'est le diable ». Ils sont aveuglés. C'est dramatique. Et je commence à me lasser de répéter toujours ces choses. Ils ne veulent rien entendre. Ils font semblant de ne pas comprendre. Ils idolâtrent leur dénomination, leur église. Ils idolâtrent leurs œuvres. Ils idolâtrent la Bible. Ils idolâtrent... Mais Jésus, ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils ne font pas ce que Jésus dit, ni ce que les apôtres disent. Non. Ils ne la connaissent pas. Ils ne connaissent pas leur Bible, ils font que de l'idolâtrer. Ils ne la connaissent pas, ils en parlent sans la, comme s'ils la connaissaient, mais ils ne la connaissent pas. Vendredi, un frère m'a écrit. La Bible dit, pas de bonjour, pas de comment vas-tu, rien. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Rappelons-nous que lorsque Dieu passa devant Moïse, il mit sa main afin qu'il ne meure pas. Joseph Smith dit qu'il a vu Dieu et Jésus à côte à côte. Pourrais-tu m'expliquer cela ? Point. Ni bonjour, ni rien. Il y a la politesse entre frères et sœurs, c'est rien du tout. Ça sert à rien, la politesse. Alors j'ai répondu, j'ai dit non, je t'expliquerai pas. Et puis j'ai envoyé une liste de versets. Actes 7, 55, Exode 24, 9, Amos 9, 1, Exode 24, 11. Ça, ce sont quelques textes qui disent qu'il y a des gens qui ont vu Dieu. Il dit qu'il connaît la Bible, mais il ne connaît pas. Et la Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu. Il y a des tas de versets qui nous disent que des gens, des hommes, des femmes ont vu Dieu. Mais ils ne connaissent pas. La Bible dit quoi ? Ils ne la connaissent pas et ils se permettent d'émettre des sans politesse, n'est-ce pas ? D'écrire sans politesse à un homme de Dieu. Alors à cette liste de versets, c'est ce qui me répond. Enfin, trois points de suspension, je préfère me concentrer sur l'évangile de Jésus-Christ. Chacun son chemin. Mais ça veut dire quoi ça, chacun son chemin ? Sachant qu'il n'y a qu'un seul chemin, Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie, si lui prétend et croit être sur le chemin, c'est-à-dire sur Jésus-Christ, et qu'il me dit chacun son chemin, ça veut dire qu'il pense que je suis sur le chemin du diable. Mais c'est qui ce gamin qui n'a jamais rien fait de ses 10 doigts pour le Seigneur ? Qui a jamais chassé un démon, qui a jamais guéri un malade au nom de Jésus, qui a jamais emmené une personne à Jésus, que je sache, et qui vient parler à un vieil homme comme moi, sans aucune politesse. Mais les chrétiens, vous savez les vierges folles, il ne faut pas chercher loin, hein. Ils m'insultent. Je lui ai fait remarquer qu'ils m'insultent. Alors ils s'excusent, disant, ah mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais n'empêche, il l'a écrit. Les écrits restent. Quand on écrit quelque chose à quelqu'un, on fait attention à ce qu'on écrit, non ? Ben non ! Quand vous êtes plein d'une certitude basée sur une ignorance crasse, vous vous permettez, n'est-ce pas, d'écrire n'importe comment, n'importe quoi, à n'importe qui. Quelle sorte d'égrégore manipule cette sorte de chrétien sincère mais arrogant ? Je vous pose la question. Mon Dieu, après on s'étonne, oui, il n'y a plus beaucoup de miracles en France, on ne comprend pas. Mais cherchez pas. Tout ça, c'est parti de la France. Allan Kardec, c'est parti, ça s'est répandu en Angleterre, en Amérique, partout dans le monde, ça vient de la France. On dit, ah mais pourquoi on dirait que Dieu a abandonné la France ? Mais cherchez pourquoi ? Cherchez à savoir. Quel est cet égrégore qui plane monstrueux au-dessus de la France et qui empêche, n'est-ce pas, toute action spirituelle ? Qu'est-ce que c'est quoi ? Vous voulez savoir ? Vous cherchez ? Ben voilà. Les églises qui ne prient plus, qui n'ont pas de but commun, qui ne prennent pas soin des pauvres, sont sous l'influence des satanistes qui, eux, ont des réunions spirituelles, certes occultes, diaboliques, mais ils ont des réunions spirituelles, organisées spirituellement, et ils ont aussi des buts communs, entre autres, celui de détruire les églises. Alors, je vais m'arrêter là. Si vous n'avez pas compris ce que vous avez à faire, allez manger votre repas de Noël ce soir et buvez votre champagne et bonne nuit. Mais si vous avez compris quelque chose, Faites ce qu'il y a à faire. Ne comptez sur personne. Parlez autour de vous. Unissez-vous à des chrétiens de confiance et priez ensemble. Ayez des projets communs, ayez des projets avec eux. Mettez ces projets à exécution pour la gloire de Dieu, des projets d'évangélisation, des projets d'aide aux démunis. Ayez des buts communs, créez des masses de résistance spirituelle dans le monde invisible et soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Au revoir.